tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Alors, dans ce projet que vous avez conçu donc à deux, quel est exactement votre rôle, votre fonction ?
Alors, mon rôle va plutôt être sur l'organisation, la fonction des bâtiments, l'agencement des bâtiments, ce à quoi ils sont dévolus, comment on les organise à l'intérieur, les plans, les matériaux qu'on utilise, aller chercher ces matériaux, le démarchage auprès des différents fournisseurs.
Dans le choix des matériaux, quels sont les critères que vous retenez ?
Alors, le critère que l'on retient essentiellement, c'est qu'il soit écologique. Effectivement, quand on est arrivé ici, dans le moulin même, qui était la pièce habitable, mais qui n'avait même pas d'assainissement, il a fallu tout construire et penser. Donc, de l'assainissement en passant par l'alimentation en eau, l'évacuation et l'électricité, on va dire. Sur la structure des pièces, on est resté sur de l'existant parce que c'était très bien conçu comme cela. Mais l'isolation, on l'a pensé en laine de chanvre uniquement, parce que d'une part c'est un matériau écologique que l'on peut trouver en France, donc en circuit court on va dire, et en plus parce qu'il a la capacité de réguler l'hygrométrie, ce qui est primordial pour bien isoler un bâtiment tel que le moulin.
Alors, quand vous parlez du chanvre, au 18e, 19e siècle, par exemple, la culture du chanvre se faisait notamment dans la Haute-Lande, hein, puisqu'on a des exemples dans les documents relatifs notamment à Marquèze. On a des documents qui montrent effectivement qu'on cultivait le lin et qu'on cultivait le chanvre. Ensuite, ça a complètement disparu. Et aujourd'hui, dans le département des Landes, il n'y a pas beaucoup de producteurs de chanvre. Est-ce que vous êtes resté dans le département ou est-ce que vous vous êtes adressé en dehors ?
Alors, on a été obligé de s'adresser en dehors, effectivement. Mmh. Il y a un producteur de chanvre qui est du côté de Cap-Breton, je crois, sur la côte, en tout cas, que j'ai démarché, qui n'a pas pu répondre présent, parce que, bien qu'il cultive du chanvre, il n'est pas équipé en machine pour pouvoir traiter la fibre en isolant. Donc on a été obligé d'aller voir un petit peu plus loin et on s'est approvisionné en Vendée.
Et sinon, comme autre matériau écologique, en dehors du chanvre, est-ce que vous avez utilisé des peintures, des revêtements, des enduits qui étaient particulièrement naturels ?
Tout à fait. Alors en fait, le moulin, les murs des bâtiments sont assez conséquents. Ils font au minimum 50 cm d'épaisseur en pierre et avec un enduit à la chaux. Le problème, c'est que en fonction des époques et notamment au début du XXe siècle, le ciment était très en vogue. Donc il a fallu sur plusieurs endroits enlever le ciment qui empêche la pierre de respirer. Et donc l'asphyxie avec tous les problèmes de salpêtre que ça peut générer derrière, pour remettre uniquement un enduit sable et chaud. Mmh. Donc tout à fait, ça fait partie des choses auxquelles on s'astreint et qui sont pas évidentes à trouver parce que aujourd'hui on a tellement de fournitures pratiques que on perd ce savoir-faire et c'est également pour ça que on mène nous-mêmes la plupart des travaux.
Il y a encore la possibilité de faire, par exemple, des peintures avec des pigments naturels, hein, notamment, qu'on va délayer. Donc, c'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que ça reste quand même limité.
Tout à fait. Sur les volets, par exemple, du moulin que j'ai nettoyé, j'ai fait une préparation, en fait, à base d'huile dure et de pigments plutôt que d'utiliser une peinture.
Nous allons donc conclure déjà ce volet par un air de musique. Vous avez choisi une grande cantatrice.
Oui, alors j'ai choisi La Calas dans Norma. Pourquoi ? Parce que notre petite dernière, Naëma, pour ne pas la citer, adore La Calas.
C'est un très bon choix. Dans ce second volet consacré au Moulin Neuf d'Audignon, nous allons aborder un autre point, celui de l'utilité des moulins, avec Nicolas. Les moulins, depuis qu'ils existent, ont toujours eu leur place dans l'environnement et dans l'activité humaine. Alors, quels sont les avantages que présenterait, par exemple, le maintien intégral d'un moulin avec ses digues ?
Oui, vous avez tout à fait raison, d'autant que effectivement, il faut se remettre à l'époque aussi, par exemple, du Moyen-Âge. Les ressources nutritives que pouvait apporter la rivière étaient évidemment à préserver. Donc, si on avait construit des barrages et que ça condamnait les poissons, forcément, on n'aurait pas construit de barrages comme ça. On aurait réfléchi les choses, on aurait pensé des choses autrement, dans la mesure où, effectivement, la rivière nourrissait aussi les hommes. On a beaucoup de documents écrits, notamment sur tous les bras de l'Adour, comme c'est le cas du Gabas qui se jette dans l'Adour un petit peu plus bas, au niveau de Toulousette, où on avait des saumons qui remontaient le Gabas, barrage ou pas barrage. Alors les saumons sont connus pour sauter par-dessus les barrages comme qui rigolent, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espèces de poissons qui peuplaient les rivières en général, le Gabas en particulier. Aujourd'hui, on a des espèces plus invasives et plus problématiques dans nos rivières, j'allais dire des Landes, mais on peut dire de France. On a les écrevisses américaines, on a les goujons asiatiques. Alors ça fait beaucoup de noms étrangers, comme s'ils étaient suspects de quoi que ce soit, mais ce sont des espèces invasives qui posent problème à tout l'écosystème de la rivière. Alors les moulins en tant que tels peuvent réguler un petit peu ces méfaits à l'écosystème, dans la mesure où, par exemple, un barrage a pour but principal, j'allais dire non, puisque sa fonction est d'alimenter les canaux, mais a pour bienfait principal, en tout cas pour l'environnement, de ralentir justement un cours d'eau, parce que sinon il faut se représenter, pardon pour l'image, mais une chasse d'eau que l'on tirerait du haut de la rivière pour se déverser directement dans la mer. Une rivière sans barrage, sans embâcle, parce que les humains n'ont pas le monopole des barrages. Beaucoup d'événements naturels créent des barrages aussi sur les rivières. Je parle de chutes d'arbres, mais je parle aussi par exemple de castors, dont les bienfaits des barrages ont été aussi démontrés largement, notamment chez nos transatlantiques canadiens, où beaucoup d'études ont été faites sur les barrages de castors et ont démontré les bienfaits pour la nature, notamment sur les dénitrifications de l'eau. Les barrages sont des antipolluants parce qu'ils permettent aux éléments toxiques de se ralentir et de se casser au pied des barrages et de moins polluer le reste du cours d'eau. Mais ce sont aussi des retenues pour les déchets, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Heureusement, j'espère aujourd'hui qu'ils sont plus involontaires que volontaires, sur des choses qui... des masques, par exemple, qui peuvent s'envoler des voitures et non pas jeter par la fenêtre sauvagement par les gens. J'ose imaginer que les gens ne font pas ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que les barrages le permettent. Moi, je me rends compte au quotidien au Moulin Neuf où régulièrement je vais avec un sac poubelle sur le haut de mon barrage pour aller ramasser les déchets qui peuvent s'y trouver. Et ces déchets-là, c'est à la fois un énervement de les ramasser parce qu'ils n'ont rien à faire là, parce que pour le coup, ce sont des déchets plastiques humains, et en même temps, une espèce de fierté que j'ai à ma petite échelle de pouvoir contribuer à une dépollution de la mer quelque part, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce sont dans nos rivières que commence la mer, que les petites choses qu'on peut faire à l'échelle d'une rivière permettent de pas avoir, comme c'était le cas l'autre jour à Messanges sur la plage, une baleine échouée qu'on a retrouvée avec 16 kilos de plastique dans l'estomac, des paquets de chips. Enfin, voilà, ça c'est notre triste empreinte sur la mer que l'on peut en arrêter dès les rivières, et les barrages peuvent contribuer à ça. Et c'est d'ailleurs un projet que je mène avec deux jeunes de Saint-Sevé, deux jeunes de 17 ans, deux lycéens, qui m'ont sollicité il y a quelques mois de cela pour monter une expédition sur le Gabas que nous allons mener à la deuxième quinzaine de juillet de cette année. Expédition Gabas, on l'appelle, où on va faire la première descente en kayak du Gabas intégralement depuis le plateau de Gers jusqu'à l'Adour. Mais l'exploit n'est pas sportif, il est surtout environnemental, enfin l'intérêt est environnemental, puisque nous allons nettoyer le lit de la rive. On est en accord avec les déchetteries, avec le Siatom de Chalosse et avec le Siectom pour la partie des Pyrénées-Atlantiques, et avec le syndicat de rivière du Gabas. On est en train de monter une expédition donc pour dépolluer la rivière. Alors ça sera que temporaire, parce qu'il faudra sans doute recommencer dans 2 ans, dans 3 ans, mais au moins c'est une petite pierre à l'édifice pour que on nettoie notre mer, finalement, enfin nos mers un peu plus, et qu'on prenne notre part de colibri.
C'est effectivement un projet tout à fait vaste et généreux d'ailleurs. Alors il y a dans les rivières des pneus. parfois des bicyclettes, des déchets auxquels on ne s'attendrait pas et qui sont des déchets volumineux d'ailleurs, très encombrants, que les gens continuent à s'ingénier à jeter, puisque régulièrement, c'est vrai que les techniciens de rivière essayent de nettoyer par exemple la Douze ou bien le Midou, et régulièrement, ils remontent ce genre de déchets. C'est le moment de passer à la seconde chanson. Qu'est-ce que vous nous proposez, Céline ?
Alors, je vous propose Beyrouth d'Ibrahim Malouf.
Y a-t-il une raison ?
J'aime beaucoup ce morceau parce que je trouve que Ibrahim Malouf traite vraiment la guitare comme une voix. Et dans ce morceau particulièrement, où il commence par quelque chose de très doux, mélodieux, et puis qui monte en puissance et qui devient très rock et qui colle complètement pour moi à ce pays qui est le Liban et à cette volonté de... voilà, entre la douceur orientale et puis cet esprit combatif de reconstruction permanente.
Nous abordons le volet 3 de l'émission consacrée au moulin neuf d'Audignon. Dans cet ensemble, bon déjà, même s'il n'est pas du tout terminé, puisque vous êtes, et vous en avez encore sans doute pour quelques années, en plein aménagement, c'est un ensemble qui néanmoins est vraiment très beau hein, quand on le visite. J'imagine que vous avez déjà pensé à l'ensemble du projet dans l'avenir, puisque en fait ce que vous aimeriez, c'est avoir votre autosuffisance un petit peu, tout en étant donc ouvert sur l'extérieur. Et avec des échanges.
Oui, tout à fait. Le but de ce lieu, de ce site, c'est vraiment d'en faire un lieu autosuffisant avec cette énergie qui est l'eau, mais également qu'il soit ouvert sur l'extérieur et orienté sur l'accueil. L'accueil, moi, de par mes formations de personnes qui voudraient se ressourcer, venir en résidence, d'artistes également, puisque c'est un milieu dans lequel j'ai baigné aussi depuis une trentaine d'années, donc de résidences d'artistes. Certains ont déjà mis en place certaines de leurs œuvres et continueront à le faire. Le moulin que nous habitons, le bâtiment du moulin que nous habitons aujourd'hui, lui a une destination d'hébergement de chambres d'hôtes. Alors, dans ce qu'on a imaginé, pas forcément à la nuitée, puisque notre idée, c'est vraiment de pouvoir s'imprégner de l'endroit et de ce qu'il propose. Donc, peut-être plutôt sur des séjours avec un tas d'activités annexes qui seraient proposées, telles que du yoga, telles que des bains de forêt, puisque, comme l'a dit Nicolas, on est quand même sur 7 hectares majoritairement de forêt. Avec aussi des soins en massage ou en rêve éveillé, qui est une autre activité que je développe maintenant depuis 4 ans.
Dans le domaine de l'art, est-ce que vous avez encore d'autres intentions, d'autres projets ?
Alors, en fait, l'année dernière, lors du premier confinement, j'ai effectivement dans mon entourage beaucoup d'artistes et quand on s'appelait les uns après les autres, peintres, sculpteurs, danseurs, m'annonçaient qu'ils étaient déprogrammés, que leurs toiles ne partaient pas, que la galerie qui les expose fermait, enfin voilà. Audignon est proche de Saint-Sevé. Et à Saint-Sevé, il y a, à mon sens, un patrimoine architectural qui est riche entre le cloître, ne serait-ce que le cloître de l'abbatiale et le cloître des Jacobins. Et donc, à l'époque, le maire avec lequel on avait échangé, puisque ses parents sont audignonnais, nous avait présenté les bâtiments de Saint-Sevé et m'avait dit que si j'avais un projet, la ville était intéressée par faire la promotion d'initiatives. J'ai demandé donc à mes amis si, dans le cas où je pouvais avoir à disposition un lieu, s'ils étaient intéressés pour l'investir sur la période de l'été. La plupart m'ont répondu que ça serait formidable. Quasiment à date anniversaire, puisque c'était mi-mai, j'ai entrepris de monter un festival qui s'est appelé le Festival Arts en Vie et qui a rassemblé plusieurs artistes dans des domaines divers, que ce soit de la peinture, de la céramique, de la ferronnerie, de la sculpture, mais aussi des musiciens, des danseurs et différentes performances en fait. C'était vraiment tout art, toute démonstration artistique confondue. Et ça a été plus de 3 semaines au cloître des Jacobins, des rencontres avec le public qui ont été possibles pour ces artistes, mais aussi des rencontres entre eux qui ont vraiment permis aussi de décloisonner certains domaines artistiques qui n'ont pas l'habitude de travailler en lien avec d'autres. Et c'était un petit peu ce qui avait fait naître ce projet de Arts en Vie, qui accessoirement était l'anagramme en plus de Saint-Sevé. C'était vraiment de dire moi, je les avais interpellés en disant, mais en fait, là, on est confinés, nous, la population française, mais est-ce que ce confinement ne nous fait pas réfléchir sur le fait que l'art s'est vu confiné depuis plusieurs années dans des institutions, dans des structures qui, une fois qu'elles ne sont plus là, qu'elles n'ont plus la possibilité d'être ouvertes, et ben en fait, c'est comme s'il n'y avait plus d'art, alors que l'art, enfin, à mon sens en tout cas, pour moi, c'est partout, c'est à tout moment. Et c'est, ça ne peut pas être enfermé dans quelque chose. Donc, d'où ce nom. Et puis, en plus, le lieu, tant du cloître des Jacobins que le cloître de l'Abbatiale, qui a aussi accueilli dans ses jardins des sculptures, était vraiment, pour moi, plein de sens. Parce que ça faisait lien entre quelque chose d'historique, d'ancien, qui parfois peut s'apparenter à quelque chose de figé. Et en même temps, ce patrimoine était ramené dans cette temporalité particulière qu'on était en train de vivre. Et du coup, investi par aussi des artistes qui faisaient des choses très contemporaines et avec un public qui allait de la naissance jusqu'à 80. 19 ans et qui pouvait s'y reconnaître, que ce soit à travers les pierres du lieu, que les activités autour de sculptures en bouteilles de gaz, de céramique. Et là, je trouve qu'effectivement, on est dans l'art et dans la culture et dans l'essence que ces mots représentent. Oui.
Vous avez d'autres projets pour l'avenir, mais que vous n'avez pas encore démarré. Mais c'est intéressant parce que ce sont finalement les projets qui font aussi vivre et qui nourrissent justement à la fois l'avenir, bien entendu, mais aussi qui donnent une dimension riche à tout ce que vous aimeriez faire. Et cette dimension-là, elle porte sur l'autosuffisance. Que vous n'avez pas pu commencer à organiser, parce que là, vous avez déjà tellement de travail à faire pour réhabiliter l'ensemble de ce moulin et de ces bâtiments. Mais là, l'autosuffisance, c'est donc pouvoir quand même se nourrir, disposer à peu près de tout sur son terrain. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé ?
Effectivement. Alors, sur cette notion d'autosuffisance, notamment le projet de potager en permaculture qui n'a pas encore démarré parce que on est beaucoup sollicité et pris par la restauration des bâtiments, mais qui est à mettre en place en plus des animaux que l'on a d'ores et déjà installés, que ce soit les poules ou plus récemment des moutons du Cameroun que l'on a reçu au moulin. La permaculture, effectivement, est la prochaine étape, grande étape, sur cette route de l'autosuffisance.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Merci de toutes ces informations extrêmement riches que vous avez bien voulu partager donc avec moi et avec les auditeurs de Radio MDM. Nicolas s'étant éclipsé pour un conseil d'administration. Donc, je vais vous dire au revoir, vous dire adichat, comme on dit ici.
Adichat, merci beaucoup.
Et peut-être à une autre fois pour le suivi ultérieur quand même de ce projet.
Avec grand plaisir.
C'était Les Landes, c'est ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes, c'est ma nature, le lundi de 15h à 15h30, rediffusion en trois parties, le mardi, le mercredi et le jeudi à 13h sur MDM.